Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Lutter contre la pauvreté matérielle et spirituelle, bâtir la paix, construire des ponts et sauvegarder l'environnement. Au 9e jour de son pontificat, le pape François a exposé quelques-unes de ses priorités devant le corps diplomatique, compte rendu dès le début de cette émission. Samedi, le pape en exercice déjeunera avec son prédécesseur Benoît XVI à l'abri des murs de la résidence pontificale d'été à Castel Gandolfo, un face-à-face inédit qui suscite une légitime curiosité et bien des spéculations. Nous parlerons également du Mali dans ce magazine. Un an après le coup d'État, l'accent mis sur les opérations militaires et sur la situation sécuritaire risque de reléguer au second plan des secteurs clés comme la sécurité alimentaire, la santé, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'éducation. Nous parlerons également de la visite de Barack Obama à Bethléem et de la visite du patriarche chaldéen au Vatican. Un échange simple mais intense, l'accolade du pape au monde. C'est en ces termes que le pape François a lui-même qualifié sa première rencontre vendredi matin avec le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège dans la salle royale du palais pontifical. Un parterre d'ambassadeurs particulièrement nombreux car le réseau diplomatique du Saint-Siège couvre la quasi-totalité de la planète. Toujours aussi spontané, le premier pape nommé François leur a exposé les grandes lignes de son programme. Olivier Toscani.
Un des titres de l'évêque de Rome est pontife, c'est-à-dire celui qui construit des ponts avec Dieu et entre les hommes. C'est peut-être la phrase qui résume le mieux le message que le pape François a voulu transmettre aux représentants des 180 pays avec lesquels le Saint-Siège entretient des rapports diplomatiques, un message prononcé en italien. Je désire vraiment que le dialogue nous aide à construire des ponts entre tous les hommes, si bien que chacun puisse trouver dans l'autre non pas un ennemi, non pas un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser. Le pape François a évoqué ses origines italiennes pour expliquer combien le dialogue entre les lieux et les cultures était important dans sa vie, mais il a tenu à avertir que le rôle de la religion est fondamental car on ne peut pas construire des ponts en oubliant Dieu, comme on ne peut pas vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant les autres. Le nouveau pape n'a pas évoqué les grands dossiers internationaux, mais il a exprimé une fois encore sa volonté d'intensifier le dialogue entre les religions et surtout avec l'islam, mais aussi la rencontre avec les non-croyants, pour que les différences qui séparent et blessent ne l'emportent pas, mais le désir de construire, même dans la diversité, des liens authentiques d'amitié entre tous les peuples. Se référant de nouveau à saint François d'Assise, le pape s'est dit préoccupé par la pauvreté qui afflige tant de personnes en demandant aux États de reconnaître l'œuvre généreuse des chrétiens qui sont engagés dans le monde pour alléger ces souffrances. Il s'est dit préoccupé par la pauvreté spirituelle dans les pays riches où chacun, dit-il, est la mesure de lui-même et voudrait pouvoir revendiquer toujours et seulement son droit personnel. Enfin, il s'est insurgé contre l'exploitation avide de la terre au détriment les uns des autres.
Le nouveau pape a dit qu'il comptait sur la collaboration avec les pays du monde entier et il espère pouvoir entreprendre un chemin avec les quelques pays qui n'entretiennent pas encore de relations diplomatiques avec le Saint-Siège, dont certains, cependant, étaient représentés à la messe du début de son ministère. Il les a chaleureusement remerciés. Parmi les pays justement qui n'ont plus de relations diplomatiques avec le Saint-Siège et qui n'ont pas envoyé de délégation le 19 mars figure la Chine continentale. À noter que le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité du monde sunnite, a envoyé un message de vœux au pape François. Ahmed El-Tayeb souhaite un monde plein de coopération et d'amour pour renforcer les valeurs communes et mettre fin à la culture de la haine et de l'inégalité. Le monde, écrit-il, a besoin de stabilité et de paix. À 7h vendredi matin, le pape François avait célébré la messe à Sainte-Marthe pour les jardiniers et les éboueurs du Vatican. Jeudi matin, le pape François s'était entretenu en privé avec le nouveau patriarche de Babylone des Chaldéens. Juste avant son départ pour l'Irak, Mgr Louis-Raphaël Ier Sacco nous a accordé un entretien. Il relate cette entrevue avec le pape François, dont il aperçut la profonde spiritualité, la grande bonté. On l'écoute.
Je trouvais sa bonté, très grande bonté, et un esprit qui s'impose, qui se reflète, sans même parler. Moi, je suis allé pour lui demander seulement, dans ses discours, mentionner un peu les musulmans, le monde musulman, parce que cela nous aide à vivre ensemble. Mais ça a changé à une causerie comme ça, de pasteur. Les mêmes préoccupations, les mêmes aspirations. Déjà, le nom me dit beaucoup. Et je lui ai dit ça. Saint François est venu au Moyen-Orient, il a rencontré les musulmans. Je vous invite aussi à faire la même chose. Nous avons besoin de vous, de votre proximité, encouragement, pour rester là-bas et témoigner les valeurs évangéliques. Il a dit tout à fait, tout à fait. Je viendrai. Il a posé quelques questions sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient et aussi en Irak.
À vous écouter, on a le sentiment que c'était un échange d'une extrême fraternité, extrême proximité.
Oui, il y a des similitudes. Déjà, quand il a été choisi de l'Argentine, tout de suite, j'ai pensé, lui, il a une expérience envers les pauvres. Chez nous, c'est un pays riche, mais c'est exploité, comme l'Amérique latine. Et la guerre a laissé beaucoup de pauvres, d'orphelins, de veuves, etc. Alors, je lui ai dit, nous avons eu beaucoup de martyrs, à peu près 1000 chrétiens. Tout de suite, comme réaction, je me sens mal, je souffre pour ça, c'est quoi ça? Je dis oui, nous sommes un peu persécutés, mais nous sommes très forts, nous avons à l'intérieur la paix et la joie. Et elle a dit oui, ça se voit. Puis je lui ai dit, être pape, ce n'est pas une charge. Je trouve que c'est une vocation, c'est un appel du Seigneur. Il m'a dit, je suis tout à fait d'accord. Puis à la fin, il a dit, alors, priez pour moi. J'ai dit, moi aussi, j'ai besoin de votre prière. Nous allons tous prier pour vous, pour que vous résistez, pour que vous soyez toujours comme vous êtes, un homme qui porte la lumière de Dieu, la parole de l'Évangile, un homme prophétique. Nous avons besoin d'un homme, d'une personne prophète pour notre temps contemporain, pour les gens qui donnent un peu de sens pour nos vies et aussi beaucoup d'espoir.
Un homme qui vient d'Amérique du Sud, un Argentin, pour évangéliser en particulier l'Europe.
Je ne sais pas si c'est seulement l'Europe, je crois. Tout d'abord, évangéliser l'Église catholique.
Le patriarche chaldéen de Bagdad, interrogé par Hélène Destombes. Il s'agira d'une première historique. Un pape en exercice va rencontrer un pape émérite ce samedi. 10 jours après son élection, François se rendra à Castel Gandolfo pour s'entretenir avec son prédécesseur Benoît XVI à l'abri des médias. Départ du Vatican en hélicoptère à midi, aucune cérémonie officielle, un programme simple pour un événement inédit. Ce face-à-face extraordinaire sera guetté par les journalistes comme par les simples fidèles qui risquent fort pourtant de rester sur leur faim. Avant de se retirer, Benoît XVI avait clairement assuré son obéissance inconditionnelle au futur pape et annoncé qu'il assisterait son successeur de sa prière à l'écart de la vie publique. Il s'installera au début du mois de mai dans un ancien monastère situé dans l'enceinte du Vatican. Les deux hommes ont déjà eu des conversations téléphoniques ces jours derniers, le jour même de l'élection et le 19 mars, fête du saint patron du pape Ratzinger, Joseph. Depuis son élection, le pape François a plusieurs fois exprimé son affection, ses sentiments fraternels et son estime pour son prédécesseur, avec lequel il a, malgré les apparences, de nombreuses similitudes, à commencer par le goût de la simplicité et la fidélité à la doctrine.
Un pensiero colmo di grande affetto.
Mes pensées pleines d'affection et de gratitude se tournent vers mon vénérable prédécesseur qui, durant ses années de pontificat, a enrichi et nourri l'Église de son magistère. Sa bonté et sa foi, son humilité et sa prudence resteront pour tous un patrimoine spirituel. Notre prière fervente, le souvenir impérissable que nous gardons de lui, notre fidèle et affectueuse reconnaissance l'accompagneront toujours. Sa prière soutiendra encore l'Église sur son chemin spirituel et missionnaire.
Nel suo cammino spirituale e missionario.
Le pape François devant les cardinaux le 15 mars, 2 jours après son élection. Loin de l'engouement médiatique et populaire suscité par le nouveau pape, par son style informel et ses gestes de rupture, de nombreux observateurs avertis estiment que l'héritage de Benoît XVI continuera à influencer ce pontificat. Selon eux, le pape venu du bout du monde s'inscrit dans les pas de son prédécesseur, dont il est très proche sur le fond, en dépit des différences quant à la forme. Le journaliste allemand Peter Sewald, qui connaît bien Joseph Ratzinger, a affirmé dans la presse italienne que Jean-Paul II avait stabilisé le bateau de l'Église dans la tempête, que Benoît XVI l'avait purifié et que François va relancer le moteur pour faire bouger l'Église. Il y a tout juste un an, le 22 mars 2012, le Mali était le théâtre d'un coup d'État. Le capitaine Sanogo, à la tête d'une junte militaire, renversait le président Amadou Toumani Touré. Les putschistes tirent toujours les ficelles de la transition politique dans le pays, alors que la situation sécuritaire s'est dégradée dans le nord. La France y combat toujours les djihadistes aux côtés des armées tchadiennes et maliennes. Sur le plan politique, difficile pour l'instant d'y voir clair. Les Maliens ont besoin avant tout de se parler et de se réconcilier. C'est ce que nous explique Jean de Dieu Danbélé, cet anthropologue malien et membre du Conseil régional des laïcs d'Afrique de l'Ouest en charge des questions de justice, de paix et de réconciliation.
Moi, je pense que les priorités aujourd'hui pour le Mali au niveau politique, c'est réellement un dialogue national. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en 2012. Ce sont les conséquences, en tout cas en partie, d'une certaine gouvernance. Et les partis politiques sont aujourd'hui un peu discrédités par rapport à la population. Et donc, il serait bien et il est urgent que les Maliens puissent s'asseoir et se dire les choses pour que plus jamais nous ne retombions dans certaines situations qui nous ont amenés en partie à la situation que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une crise politique aujourd'hui. Et je ne sais même pas comment on va aller à des élections avec toute cette confusion. Bon, il y a des gens qui sont pour, il faut faire des élections, il faut faire des élections. Mais il faut faire des élections sur la base de quoi? Le tissu social, en tout cas, n'est plus à son beau fixe. Et les acteurs politiques n'ont plus de lisibilité. Leurs actions ne sont plus lisibles, leurs discours ne sont plus entendus par les populations. Pour les gens, c'est aujourd'hui, c'est un jeu. Et ça, c'est grave. Et alors, on ne peut pas construire une démocratie si les citoyens estiment que ceux qui ont vocation à les aider à organiser la vie de la société, que leur discours, c'est vraiment sans objet. Et je pense que ça, c'est urgent. Il faut reconnaître quand même qu'il y a un malaise dans la société, au niveau des populations.
Comment vous, concrètement, vous travaillez, et notamment au sein de l'Église, qu'est-ce que justement les Maliens et les chrétiens maliens peuvent apporter dans cette réflexion, dans cette participation au dialogue que vous avez évoqué?
Je pense que d'abord, la communauté chrétienne, depuis le début des événements, de la crise au Mali, elle s'est mise en prière. La communauté a prié et elle continue de prier pour la paix. Ensuite, l'autre aspect, c'est que la communauté chrétienne, elle n'est pas coupée du reste de la société. Au niveau institutionnel, l'Église, depuis le début, prêche pour la paix. Quelle que soit la religion, nous sommes un pays de croyants. Renvoyant chacun à sa tradition religieuse, à son fond religieux, que nous puissions voir quelles sont les lueurs d'espoir pour construire la vraie paix. Maintenant, le risque qui s'est présenté avec ces événements, c'est comment éviter que cette dimension ne soit instrumentalisée, manipulée, pour que ça desserve finalement le vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle la question de la laïcité de l'État est une question importante, mais derrière tout ça, la liberté religieuse. Et je pense qu'actuellement, il y a des efforts qui sont faits, des réflexions qui sont faites actuellement entre les différentes confessions religieuses pour qu'on clarifie cette question.
L'anthropologue malien Jean de Dieu Danbélé, interrogé par Olivier Bonnel. Et dans le nord du Mali, on manque de nourriture. Les céréales comme le sorgho, le mil et le maïs ont pratiquement disparu des marchés et les prix des produits alimentaires deviennent exorbitants. L'organisation humanitaire internationale Oxfam lance un appel aux donateurs. La fermeture de la frontière algérienne empêche l'importation des denrées de base, comme l'huile, le sucre ou le riz. Dans la région de Gao, 80% des adultes, par manque de ressources, ont réduit leur ration quotidienne de nourriture afin de permettre aux enfants de manger deux fois par jour. Barack Obama a achevé vendredi son premier voyage présidentiel en Terre Sainte par des visites symboliques sur la tombe du premier ministre israélien assassiné Yitzhak Rabin, au mémorial de la Shoah de Yad Vashem et à la basilique de la Nativité à Bethléem, au lieu de la chrétienté, où il a été accueilli par le président palestinien Mahmoud Abbas et où il est resté une vingtaine de minutes. Je vous propose d'écouter le récit du père Stéphane, supérieur de la communauté franciscaine de Bethléem. Il est interrogé par Manuela à Fiji.
Donc, une fois qu'il est rentré dans la basilique, il était accueilli par les trois chefs d'église de la basilique, par le patriarche grec orthodoxe Théophilos, par le custode franciscain de Terre Sainte, le père Pierre-Baptiste Pizzaballa, et par un évêque de l'église arménienne qui est également présent au nom du patriarche arménien. Ensuite, avec la ministre du tourisme palestinien, il a continué, il a visité la basilique, il a regardé les mosaïques du IVe siècle qui se trouvent par terre. Et ensuite, sur le podium, devant l'autel, il était accueilli par la communauté grecque orthodoxe. Ensuite, il est descendu à la grotte de la Nativité. Là, le Abou Mazen n'est pas descendu. Il s'est recueilli un instant devant l'étoile de la Nativité. Et ensuite, je l'ai accueilli devant la mangeoire. On a prié pour la paix, à la fois la paix pour les États-Unis et pour le monde entier. Ensuite, le président s'est rendu devant l'autel des Arméniens, où il a été donc reçu par l'évêque arménien. Et enfin, il est rentré dans l'église Sainte-Catherine, où l'attendait le custode de Terre Sainte. Et il a fait une visite à l'église Sainte-Catherine, qui est l'église paroissiale latine de Bethléem. Il a allumé un cierge devant l'enfant Jésus qui est dans l'église Sainte-Catherine, cette petite statue qui est déposée dans la mangeoire pendant la nuit de Noël. Et elle irait jusqu'à la fête de l'Épiphanie. Et ensuite, il a été accueilli dans le cloître des franciscains. Il y avait en fait les petits-enfants de Abou Mazen qui étaient présents, quatre de ses petits-enfants qui étaient là. Et ensuite, quelques enfants dans le cloître ont acclamé le président en brandissant des drapeaux palestiniens et américains. Et ensuite, le président est sorti et il a continué sa visite.
Cette visite du président Obama a-t-elle représenté quelque chose de particulier pour vous ?
Pour nous, personnellement, eh bien, en fait, nous sommes ici pour accueillir tous les pèlerins du monde entier qui viennent à la basilique de la Nativité. Alors, vous avez des pèlerins qui sont des illustres inconnus. Et puis, vous avez parfois des chefs d'État qui viennent. Il y a beaucoup de chefs d'État qui viennent. Il y en a à peu près une dizaine par an. Des chefs d'État qui sont reçus donc par l'autonomie palestinienne et qui viennent également faire une visite à la basilique de la Nativité. Nous ne faisons pas de politique. Nous avons accueilli Vladimir Poutine il y a 6 mois, le président Obama maintenant. Nous sommes ici pour accueillir les gens tels qu'ils sont. On ne demande pas de certificat pour savoir à quel point ils sont au niveau de leur foi. Si c'est un pèlerinage, c'est une visite de protocole ou de curiosité. Les pèlerins sont tous accueillis, chacun en étant avec ce qu'il est. Et on espère que leur passage dans des lieux saints, comme le lieu où le Christ est né, puissent toucher leur cœur et pourquoi pas changer leur vie.
Le père Stéphane, supérieur de la communauté franciscaine de Bethléem. L'archevêque maronite de Chypre espère que les Chypriotes parviendront à demeurer unis malgré la situation dramatique actuelle. Dans une interview à l'agence de presse des évêques italiens, Mgr Youssef Souaif a indiqué que l'église orthodoxe, largement majoritaire à Chypre, s'est dite prête à mettre ses biens à la disposition du gouvernement pour faire face à la crise économique et financière. Il s'agit, selon Mgr Souaif, d'une décision prophétique et évangélique. La communauté maronite, très minoritaire, s'efforce, par le biais de ses réseaux, en particulier de Caritas, de se montrer solidaire de ceux qui souffrent. L'avenir est sombre et l'amertume est grande au sein de la population, souligne Mgr Souaif, qui souhaite une révision des modalités d'intervention de l'Europe. Paris, les 9 nouvelles cloches de Notre-Dame vont sonner pour la première fois ce samedi 23 mars, veille des rameaux, à l'unisson du gros bourdon Emmanuel en place depuis 1686. Elles vont désormais rythmer la vie de la cathédrale et de la capitale française. L'inauguration solennelle aura lieu à 17h sur le parvis de Notre-Dame. Elle sera présidée par le cardinal André XXIII, en présence notamment du maire de la ville, du ministre de la Culture et de la Communication et du nonce apostolique en France. La cérémonie sera ponctuée de discours, d'un film retraçant l'aventure de ce projet et de plusieurs séquences de sonneries des cloches. Il s'agit de copies des cloches disparues au moment de la Révolution française. Elles avaient été fondues, à part le gros bourdon Emmanuel, pour être transformées en canons. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne fin de semaine à tous.